Bonjour à tous et à toutes, au micro David Chemla qui a le plaisir de vous présenter le nouveau numéro de Chronique pour la paix. Bonjour, nous sommes aujourd'hui donc en ligne avec Eli Barnavi, que nos auditeurs connaissent bien, ancien ambassadeur d'Israël en France. Eli, bonjour.
Bonjour.
J'ai voulu donc faire ce matin l'émission avec vous parce qu'avec d'autres anciens ambassadeurs, vous aviez pris l'initiative de vous adresser au président américain pour qu'il ne fasse pas la déclaration qui a été faite il y a 48 heures maintenant, de reconnaître Jérusalem comme capitale et d'annoncer le transfert de l'ambassade d'Israël. Alors, je voudrais vous demander si vous pensez, comme le titre Le Monde d'hier soir, que c'est vraiment un tournant diplomatique de la politique américaine au Proche-Orient que nous venons de vivre.
Il faudrait attendre un peu pour voir cela. Vous savez, ce genre d'affaires, on leur donne une énorme importance au moment où ils surviennent et puis on s'aperçoit que finalement c'était une tempête dans un verre d'eau diplomatique. Mais c'est un tournant, enfin, ce n'est pas rien. Que la plus grande puissance mondiale, qui était jusqu'ici considérée comme le médiateur par excellence dans les conflits israélo-palestiniens, qui décide unilatéralement de reconnaître Israël comme la capitale de l'État d'Israël, c'est un tournant, c'est une charge symbolique énorme, même si pratiquement sur le terrain, dans les faits, cela ne change rien.
Et ce transfert de l'ambassade, ça avait déjà été acquis enfin, par un vote au Congrès il y a 20 ans, mais tous les 6 mois, c'était repoussé. Qu'est-ce qui a changé maintenant pour que Trump prenne cette décision?
Ce qui a changé, c'est Trump lui-même. C'est-à-dire, c'est un homme qui a ses obsessions. Outre son incompétence notoire, son incapacité à réfléchir clairement, il y a le fait qu'il a promis cela à sa base évangélique et qu'il est obsédé par le fait qu'il veut se différencier de ses prédécesseurs et notamment d'Obama, c'est la première chose qu'il a dit. Eux l'ont promis, moi je le fais. Et donc voilà, il faut prendre en considération les faits et gestes d'un homme fantasque conduit par ses impulsions. Et donc voilà, tous ceux qui s'imaginent que les États ont un comportement rationnel, que ce sont, comme on dit, des monstres froids, oublient que ce sont des hommes au sang chaud qui les conduisent. Et le sang de Trump est particulièrement chaud, il est même bouillant. Et donc c'est une affaire circonstancielle, on s'y attendait, et même lui, étant donné tout de même les influences croisées au sein de sa Maison Blanche. Même lui a pris le soin de distinguer Jérusalem Est, Jérusalem Ouest. Il s'agit bien de Jérusalem Ouest, bien sûr, sans préjuger des contours futurs de Jérusalem ni de ce qui va se passer avec la partie orientale de la ville. Enfin, il a pris quelques précautions, si vous voulez, et sa déclaration, finalement, elle dit l'évidence. Elle dit ce que nous savons depuis et puis la création de l'État, que Jérusalem est effectivement, pour toutes fins utiles, la capitale de l'État d'Israël. Non seulement pour nous d'ailleurs, je vous fais remarquer que cela est vrai aussi pour la communauté internationale. Finalement, c'est à Jérusalem que les ambassadeurs nouveaux présentent leur créance au président de l'État. Et c'est là qu'ils se rendent pour parler politique. Personne, en fait, ne boycotte Jérusalem. Les ambassades l'ont fait jusqu'à maintenant, cela est vrai. Et ils vont continuer à le faire dorénavant aussi, y compris par les Américains, puisque l'ambassade n'est pas transférée. Et il y en a pour des années. Et ça aussi, il l'a dit. Soi-disant, ça prend du temps. En fait, ça ne prendrait pas de temps du tout. Il suffirait de changer le nom du consulat américain à Jérusalem. Mais il ne le fait pas.
Oui, mais dans sa déclaration, il n'a pas dit Jérusalem Ouest, il a parlé de Jérusalem. Ça aurait été plus clair qu'il dise Ouest. À ce moment-là, ça aurait été pas.
Non, il a présenté des cartes, David. Il a présenté des cartes où il est question spécifiquement de Jérusalem Ouest.
D'accord. Et comment c'est reçu maintenant en Israël? J'imagine que Netanyahu, évidemment, est très content, mais au niveau de la population, est-ce qu'il y a une inquiétude de voir la région s'enflammer?
Vous savez, les gens sont beaucoup plus blasés et calme que ce que l'on pourrait croire. Ça excite beaucoup les journalistes et la classe politique, mais les gens, et surtout à Jérusalem, ils vivent leur quotidien avec un peu plus d'inquiétude parce qu'on ne sait pas de quoi les prochains jours seront faits. Un premier test sera dans quelques heures, la sortie de la prière du vendredi à la mosquée du Mont du Temple, à Al-Aqsa. Et là, évidemment, la police et les forces militaires se tentent des troubles. Quelle sera la gravité de ces troubles? Quelle sera l'ampleur? Quelle sera la durée? Ça, nul ne le sait. Tout est possible, depuis des manifestations plus ou moins violentes jusqu'à une troisième intifada. Toutes les options sont sur la table.
Et la diplomatie, est-ce que ça peut être un moyen de relancer, après avoir offert à Netanyahou cette reconnaissance? Est-ce qu'on peut exiger de lui, en contrepartie, des gestes?
Écoutez, c'est ce que certains disent. C'est-à-dire, vous avez des commentateurs qui disent, bon, maintenant, il a donné ce beau cadeau de Hanukkah à Netanyahou en lui permettant au passage d'éloigner un peu de ses lèvres le calice de la police, hein, puisqu'il est sous le coup d'investigations graves. Tout cela fait diversion. Et puis, bon, maintenant, il pourra exiger de lui quelques gestes, puisque de toute façon, ils sont en train de travailler, nous dit-on, à un plan de paix. Et moi, je ne crois pas beaucoup à cette affaire-là, pour ne rien vous cacher. Je ne crois pas que cette administration soit capable de faire ce que les précédents n'ont pas fait, mais on verra bien. Et, vous savez, la politique est affaire de sentiments aussi, des pulsions. On le voit sous une forme caricaturale avec Trump. Et donc tout est possible, il se peut que sa soif de gloire, sa volonté d'accomplir le deal de sa vie, de faire mieux que c'est Obama, peut-être que tout cela va se combiner pour dire quelque chose. Cela me paraît peu probable, mais je ne l'espère pas non plus.
Alors vous savez qu'à Paris, le CRIF, hier, dans une déclaration, a appelé le président Macron à faire de même et de reconnaître Jérusalem comme capitale. Quelle est votre réaction par rapport à cette déclaration du CRIF?
C'est rien. Macron, évidemment, ne le fera pas. Aucun Européen ne le fera. Il y a une politique de l'Europe qui est la politique correcte. Malheureusement, ils sont incapables de l'appliquer. Que de dire Jérusalem, oui, c'est la capitale d'Israël, mais cela ne se réglera véritablement que dans le cadre d'un accord de paix global. Vous savez, il y a un ambassadeur qui est venu ici, l'un des derniers ambassadeurs de France, un remarquable diplomate d'ailleurs, qui est venu dans les années qui ont suivi Oslo, hein, avec le mandat, comme une des spécifications de son mandat, explicitement, de choisir un site pour l'ambassade de France à Jérusalem. À l'époque, cela paraissait pratiquement fait. Et donc, il était évident que la France allait transférer l'ambassade à Jérusalem, comme d'ailleurs tout le monde. Mais évidemment, dans le cadre de l'accord de paix. Donc, la déclaration du CRIF, oui, je comprends qu'ils aient fait ça, mais évidemment, eux-mêmes ne s'attendent pas à ce que le président Macron dise, oui, mais vous savez, après tout, oui, vous avez raison, nous allons transférer l'ambassade à Jérusalem. Tout ça est évidemment sur la relève de l'utopie dans l'immédiat.
Alors, face à cela, est-ce que c'est peut-être le moment de relancer une action vis-à-vis de l'Union européenne en leur demandant, aux principaux pays en tout cas, de prendre une position très claire, disons Jérusalem, capitale de deux États, nous le referons, nous le reconnaîtrons le jour où il y aura deux États, enfin que ce soit dit.
Bon, Federica Mogherini l'a dit et redit, mais elle l'a dit en son nom personnel, puisqu'elle n'a même pas réussi à obtenir de l'ensemble des membres de l'Union un sentiment formel pour cela. La Hongrie a fait opposition, et donc la déclaration de Federica Mogherini a été en son nom propre. C'est pour vous dire à quel point l'Europe a de la peine à exister sur la scène internationale, notamment pour ce qui concerne le Proche-Orient. Vous savez aussi que la République tchèque, ou la Tchéquie, ou je crois qu'il faut dire aujourd'hui, s'est prononcé vaguement dans des termes un peu plus ambigus, mais tout de même, en faveur du transfert de sa propre ambassade à Jérusalem. Donc, il est illusoire d'imaginer que l'Europe pourrait remplacer les États-Unis comme porteuse d'un processus de paix significatif. Elle n'a simplement pas le poids pour cela, non pas parce qu'elle ne l'a pas en soi, mais parce que pour pouvoir l'exprimer, ce poids objectif, il faudrait qu'elle puisse s'unir. Alors elle est unie autour de quelques principes vagues, mais dès qu'il s'agit de traduire ces principes vagues en monnaie politique, diplomatique, sonnante et trébuchante, l'Europe n'est plus là.
Alors, retrait de facto des Américains, parce qu'ils se coupent en tout cas d'une partie des protagonistes hein, dans le monde arabe. En tout cas, on verra bien comment les choses vont évoluer. L'Europe faible, alors se tourner vers Moscou peut-être, je ne sais pas.
Non, non. Moscou, Poutine a un intérêt très étroit des intérêts de la Russie. Ce sont des intérêts de puissance régionale. Ils veulent être implantés là et ils y parviennent d'ailleurs fort bien en Syrie, étant donné que les Américains ont vidé les lieux pratiquement. Et donc la Russie ne va pas mettre en danger son statut en essayant de jouer les messieurs bons offices entre Israéliens et Palestiniens. Ils s'en moquent éperdument. Je dirais même au contraire, c'est un Proche-Orient pacifié, en paix, n'aurait pas besoin de la Russie. C'est contraire même aux intérêts russes tels que Poutine les conçoit. Et la Chine, encore plus, puissance majeure, certes, mais éloignée, qui regarde tout cela d'un œil pratiquement indifférent. La Chine est intéressée à amasser le plus de puissance, mais elle se moque pas mal du sort des belligérants dans la région. Et il reste toujours l'Amérique. Il n'y a que cela, hélas. L'Amérique qui est neutralisée pour l'instant parce que Trump, mais l'Amérique qui n'a pas joué très bien sa partition, même avant Trump, et qui sait, peut-être qu'après l'intermède Trump, puisque lui n'est éternel, même pas lui, oui, peut-être que l'Amérique reviendra dans le jeu avec plus d'efficacité, avec un peu plus d'imagination, mais en attendant, je ne vois personne d'autre, je ne vois personne en train de les chaussures de l'Amérique.
Bien, bon, bah écoutez, c'est sur ces derniers mots que nous terminons notre émission. Merci Elie. On va suivre effectivement l'actualité de ces prochains jours avec intérêt et inquiétude aussi. À tous nos auditeurs, je dis Shabbat Shalom et à dans 15 jours